Jean-Yves Labrousse, l'histoire d'un miraculé, épisode 1.
Bonjour, tout de suite, cette horrible affaire que nous venons d'apprendre. La découverte, il y a quelques heures à peine, d'une tuerie à Saint-Martin-le-Neu, près de Beauvais, dans l'Oise. 6 morts, 4 adultes et 2 enfants.
Madame, monsieur, bonsoir. Il est des faits divers qui, dans l'horreur, dans la folie et aussi dans la banalité des vies qu'ils bouleversent, vont beaucoup plus loin que bien des récits de fiction. La nuit dernière, à Saint-Martin-le-Neu, un petit village près de Beauvais, 6 personnes d'une même famille étaient sauvagement massacrées à coups de couteau.
L'un des plus épouvantables crimes jamais commis en France, commentera un journaliste au lendemain de ce drame. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1983, Pascal Dolic, apprenti charcutier, assassine 6 personnes dans un pavillon à Saint-Martin-le-Neu, une petite commune rurale et tranquille des Hauts-de-France. Tous font partie de la même famille, les Labrousse. Parmi les victimes figure l'ancienne petite amie de Dolic. La jeune fille avait mis un terme à leur histoire quelques semaines plus tôt. Elle est morte sous les coups de couteau, aux côtés de ses parents, de ses grands-parents et de l'un de ses petits frères. Jean-Yves II a été grièvement blessé. À 15 ans, il a miraculeusement réchappé au déchaînement de violence de cette nuit d'automne. 40 ans après la nuit d'horreur dans laquelle il a perdu les siens, Jean-Yves Labrousse s'est raconté dans un livre « L'écho des ombres » coécrit avec sa fille Camille et par la journaliste Constance Bostoen. Camille et Jean-Yves seront mes invités dans le dernier épisode de cette saison. Ils nous raconteront l'histoire de Jean-Yves, le long chemin jusqu'à sa résilience. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Octobre 1983, 1h du matin. À 5 km au sud de Beauvais, la petite commune de Saint-Martin-le-Neu est endormie. Le long des rues, enserrées par les champs, les pavillons et les fermes sont plongés dans l'obscurité. Leurs occupants sont blottis dans leur lit. En ce début d'automne, le temps est clément. Les températures douces permettent aux Martidoniens de profiter encore un peu de l'été indien du mois de septembre. Dans les maisons, les grosses couvertures sont remisées dans les placards et l'atmosphère n'embaume pas encore le feu de bois. C'est une nuit paisible. Mais au sud de Saint-Martin-le-Neu, la quiétude vient de s'envoler. Au niveau de l'une des premières maisons de la commune, un bruit de verre brisé résonne dans la nuit. Des éclats de voix s'échappent maintenant du pavillon Coquet où habitent Jean-Jacques et Franciane Labrousse avec leurs 3 enfants. La suite, leur fils cadet Jean-Yves la raconte en détail dans son livre. Au rez-de-chaussée, l'adolescent de 15 ans est réveillé par des cris. Allongé dans son lit, Jean-Yves a le corps engourdi. Il émerge difficilement d'un sommeil profond. Ses paupières sont lourdes, il a du mal à retrouver ses esprits. D'un mouvement lent, il parvient à tourner la tête. De l'autre côté de la pièce, il aperçoit Fabrice, son petit frère, endormi dans son lit. Les garçons n'ont que 3 ans d'écart. Ils sont très proches. Quelques heures plus tôt, tout allait pourtant si bien. La famille a dîné un hachis parmentier préparé par l'ancien petit copain de l'aîné des enfants, Caroline. Le jeune homme s'appelle Pascal Dolic. Même s'il n'est plus avec Caroline, il est resté assez proche de la famille. Des bribes du repas reviennent à Jean-Yves. Peu de temps après avoir goûté le plat principal, son père s'est senti mal. La suite est un peu floue. L'adolescent est tiré de ses pensées embrumées. Sous la porte de sa chambre, un rayon de lumière accroche son regard. Depuis le couloir, il entend quelqu'un chuchoter. Il est passé par le sous-sol pour éteindre les lumières. Cette voix, c'est celle de sa grand-mère maternelle. Pourtant, elle n'était pas là tout à l'heure. Tout cela est étrange. Puis, le silence, à nouveau. Jean-Yves a le ventre noué. La phrase qu'il vient d'entendre lui tord les tripes. Dans la maison, quelque chose ne va pas. L'adolescent se redresse doucement en essayant de ne pas froisser les draps. Il veut rester le plus discret possible. Puis, Jean-Yves se fige. Au premier étage, des cris retentissent. Son cœur tambourine dans sa poitrine. De plus en plus vite, de plus en plus fort. C'est Caroline. L'adolescent en est sûr maintenant. Quelque chose menace sa famille. Il faut qu'il monte. Sa sœur a besoin d'aide. Les muscles tendus, il parvient à se lever et à conduire son 1m80 jusqu'à la porte. De l'autre côté, le couloir est maintenant plongé dans le noir. Malgré la situation, Jean-Yves n'arrive pas à se réveiller tout à fait. Il somnole encore et doit plaquer sa main gauche sur le mur pour progresser. L'escalier approche, il n'est plus qu'à quelques mètres. Jean-Yves va bientôt comprendre ce qui se trame. Mais il a la désagréable impression de ne pas être seul. Soudain, une douleur sourde lui déchire le bas-ventre. Dans la confusion, le jeune garçon distingue un éclat métallique dans la pénombre. C'est la lame d'un couteau. Elle est longue et effilée. Voilà qu'elle s'abat à nouveau sur lui. Alors qu'un troisième coup menace de le toucher, Jean-Yves se dégage. L'arme s'enfonce dans sa cuisse. Il n'a pas vu l'assaillant, mais il a distinctement entendu une voix. Ou plutôt, un gémissement de bête. Jean-Yves est au sol. La douleur lui coupe le souffle. L'adolescent réussit à se hisser debout. Il se presse le ventre de ses deux mains et trouve tant bien que mal la force d'avancer et de monter les escaliers. Au premier étage, il se rue dans le bureau de son père où il se faufile sous le meuble et se cache derrière la chaise. Ses pensées vont à 100 à l'heure. Qui vient de le poignarder? Pourquoi cette personne s'est-elle introduite chez eux? Caroline est-elle en danger? Recroquevillé sur lui-même, Jean-Yves halète et se demande où sont sa grand-mère et ses parents. Il donnerait tout pour se réveiller dans son lit, tiré de ce cauchemar. Il donnerait tout pour être ici même, mais avec son père. Jean-Jacques a 41 ans, ouvrier en sidérurgie, c'est aussi un guitariste passionné de musique et d'histoire. Souvent, après le dîner, Jean-Jacques transmet à son fils sa curiosité débordante dans cette pièce cosy. Jean-Yves aime le calme qui s'en dégage avec le grand bureau, le fauteuil et la bibliothèque. Pendant que le reste de la famille s'affaire à la cuisine, il y monte en catimini. Soudain, un hurlement. Une voix masculine crie son prénom à plusieurs reprises. Elle est pétrie de rage. Elle se rapproche. Son agresseur est sur ses talons. Jean-Yves se tasse davantage sous le secrétaire de son père. Il est au bord de l'évanouissement. Mais cette voix, il la reconnaît. C'est celle de Pascal, l'ancien petit ami de Caroline. Il doit changer de cachette. Jean-Yves se traîne jusqu'à la bibliothèque, la contourne et se glisse derrière sous les combles. Entre-temps, Pascal est monté. Il n'est qu'à quelques mètres. En bas, Caroline l'appelle. Les pas de Pascal s'éloignent. Jean-Yves voudrait le suivre pour venir en aide à sa sœur. Mais impossible, il n'arrive pas à bouger. Les cris se sont déplacés. Caroline et Pascal sont maintenant dans la salle de bain. La pièce est juste en dessous du bureau. Des coups, puis plus rien. Quelques minutes plus tard, Jean-Yves discerne la voix de Fabrice, son petit frère, suivi d'autres chocs. Et le pavillon sombre à nouveau dans un terrible silence. L'adolescent, lui, ne peut plus lutter, il perd connaissance. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. L'air est lourd, saturé de fumée. Une odeur âcre de plastique brûlé envahit la pièce. Jean-Yves reprend ses esprits. Il doit se lever, il doit quitter sa cachette. Et si Pascal l'attendait au détour d'un couloir? S'il était tapi dans le bureau? Réunissant ses dernières forces, l'adolescent s'extirpe des combles. Puis, il emprunte les escaliers, la peur au ventre. Au pied des marches, c'est une vision d'horreur. Étendue sur le sol, dans sa robe de chambre, sa mère est morte, une partie de son corps ravagée par les flammes. Avant de quitter les lieux, Jean-Yves trouve le corps de Fabrice. Pascal ne l'a pas épargné. Caroline et son père sont introuvables, Jean-Yves n'ose imaginer le sort qui leur a été réservé. Il doit s'enfuir chez ses grands-parents. Les agriculteurs occupent une ferme à une minute à pied. En descendant péniblement l'escalier qui sépare le perron du jardin, il prend conscience de la gravité de son état. L'adolescent a été éventré. La grille en fer forgé de la maison est fermée. Dans un effort surhumain, il escalade le portail. À quelques mètres, ses grands-parents maternels gisent au sol. En caleçon, le corps ensanglanté, le garçon tambourine au volet des voisins. En vain, il est le seul dans cette nuit noire. Jean-Yves a une dernière option, se rendre chez son oncle qui habite à quelques mètres. Aux abords de la maison, il respire enfin. Son oncle est sur le perron, mais il n'est pas seul. Jean-Yves manque de s'écrouler quand il reconnaît l'homme hagard avec lequel il est en train d'échanger. C'est Pascal. Jean-Jacques est devenu fou. Il les a tous tués, raconte Pascal. Jean-Yves Labrousse en est sûr. C'est Pascal Dolic qui a assassiné sa famille. Alors qui est cet apprenti charcutier ? Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à commettre 6 meurtres en l'espace de quelques minutes ? C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette saison consacré à cette terrible affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.